dernier sur Radioactif, réalisé par les élèves du Club Radio.
Vous trouverez de la musique, des interviews, des micros de revoir, tout sur les nouvelles tendances.
Chut, arrête, n'en dis pas trop.
Radioactif, mercredi 11h, une semaine sur deux.
En alternance avec le dimanche 17h, une semaine sur deux.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Radioactive sur Radio Barthas. Pour commencer, nous vous donnerons deux informations exclusives sur Lionel Messi, mais saurez-vous nous dire laquelle est la fausse ?
On vous présentera ensuite une interview spéciale de la principale du collège de Florac, Madame Boumanaza Bounetto, qui va vous parler de son rapport aux réseaux sociaux. Il y aura la rubrique Art Actu consacrée aujourd'hui à l'artiste Banksy.
Puis, ce sera au tour du sport avec l'interview de M. François Jalgean, champion de ping-pong paralympique.
Histoire aussi avec la déesse Aphrodite, avec un aperçu de sa vie, de la naissance à la guerre de Troie.
Nous finirons avec la chronique de Pascal et Gertrude, qui nous font toujours autant rire.
Alors, Elliot et Sarah, laquelle est fausse ?
Messi aurait paradé avec un faux trophée après la finale. Sauf que le capitaine argentin, sans le savoir, portait un faux trophée sur une photo qui est devenue, avec ses plus de 75 millions de clics, la plus likée de l'histoire du réseau social Instagram, générant au passage plus de 2 millions de commentaires. En fait, il avait récupéré une réplique plus vraie que nature, méticuleusement fabriquée par un couple de supporters venus de Buenos Aires. Paola et Manuel, à la fin du match, ces derniers sont parvenus à remettre leur totem, fait de résine et de quartz avec une peinture en or, aux joueurs pendant leur tour d'honneur. La fausse coupe a ainsi tourné de main en main pendant une heure jusqu'à Lionel Messi.
À la mienne maintenant. Messi et sa soirée gâchée. Après la soirée avec son équipe pour fêter la victoire en finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi a égaré le trophée. En allant chercher une coupe de champagne, Messi a laissé traîner le trophée sur un bar. Un de ses coéquipiers, Enzo Fernandez, en a profité pour lui subtiliser et le cacher. Se rendant compte de la disparition de la coupe, il se met à paniquer sous le regard amusé de ses coéquipiers. Ce n'est qu'en fin de soirée qu'Enzo Fernandez lui expliqua lui avoir fait une blague en la cachant dans sa valise. Messi se rappellera toute sa vie de cette blague qui a un peu gâché sa soirée.
Vous écoutez Radioactif sur Radio Barthas.
Alors, laquelle est la vraie et laquelle est la fausse ?
Moi aussi.
Et pourquoi ?
Parce que c'est trop bizarre, c'est chelou.
Qu'est-ce qui est chelou ?
C'est chelou, bah.
Qu'est-ce qui est chelou ?
Bah, je sais pas, c'est bizarre quand même. Je pense que Lionel Messi aurait pas laissé sa coupe traîner sur un bar quand même.
Bah, il va pas la porter à côté de son bar.
Bien dit.
Et maintenant, nous allons vous expliquer en quelques mots nos recherches et notre travail.
On a d'abord cherché une info insolite sur Lionel Messi, sur des sites fiables. Puis on a cherché et inventé une fake news à partir de Lionel Messi.
Et en faisant ce travail, nous sommes rendus compte que c'était facile d'inventer une fake news et de chercher aussi sur Internet.
Bonjour Madame la Principale, nous voulons vous interviewer sur les réseaux sociaux.
Bonjour à toutes les deux.
Pour commencer, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Si oui, de quelle manière et que postez-vous ?
Alors, je dirais qu'on a des réseaux sociaux WhatsApp, même si ce n'est pas toujours dans les normes de la RGPD, vous savez, hein, la réglementation qui permet de protéger les données. On les utilise, donc autant pour mon syndicat que pour professionnel. Et ensuite, j'utilise Signal pour ma famille, mes enfants qui font des études et mon mari qui est pas là, qui est loin. Ensuite, j'utilise Twitter. Twitter me permet aussi d'être en lien avec les différents professionnels, contacts que j'ai. Je suis connectée à la préfecture de la Lozère et quand il y a des alertes vigilance, neige, précipitation, ça me permet d'être assez rapidement au courant. Voilà, c'est vrai que c'est un réseau qui me permet d'être au courant sur les points de vigilance. Après, j'utilise, j'ai un compte Snapchat. Snapchat, non pas parce que j'aime pas trop Snapchat, parce que ça, il faut alimenter, il faut être en lien, c'est quelque chose où on fait des stories, on fait des choses. Par contre, ce que j'aime dans Snapchat, c'est qu'on peut créer un avatar. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un avatar au lieu de mettre sa photo. Voilà, parce que j'aime bien être vigilant sur les droits à l'image, donc je mets plutôt un avatar. Et ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser comme réseau social? Ah oui, on a un réseau social qui est un peu plus professionnel, qui s'appelle LinkedIn, qui permet d'être en réseau au niveau de ses compétences professionnelles, d'être en lien avec différents partenaires, acteurs, un peu partout, en France ou dans le monde. Voilà. Voilà comment j'utilise les réseaux sociaux.
Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont vraiment des utilités?
Alors moi, je suis une génération qui ne connaissait pas le téléphone portable, qui ne connaissait pas l'ordinateur, qui ne connaissait pas l'Internet. Donc on était sur des outils qui n'étaient pas accessibles au niveau de la communication. On devait prendre le téléphone fixe, on devait aller sur le Minitel pour avoir accès à certaines choses. L'utilité, elle est importante parce que, par exemple, j'ai des amis qui sont un peu partout en France et partout à l'étranger. Ça me permet d'avoir une actualité et de garder les liens, qui a une utilité parce qu'on a une accessibilité sur le monde extérieur. Oui, pour ça, oui, c'est intéressant. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas d'utilité dans le fait où ce n'est pas envahissant. C'est-à-dire que je fais très attention à ne pas faire des notifications. Je ne suis pas envahie dans les notifications tout le temps. Je n'aime pas quand on me rappelle à chaque fois qu'il y a eu une notification, un message. J'aime bien être dans la distance. Voilà.
Quel est le réseau social que vous trouvez le moins intéressant?
Le moins intéressant que j'utilise ou que les élèves ou que d'autres personnes peuvent utiliser?
Que d'autres personnes peuvent utiliser.
Alors je dirais pas que c'est le moins intéressant, mais celui qui a le plus de risques. Je dirais que il y a deux réseaux sociaux qui sont point de vigilance, TikTok. Parce que ça banalise des comportements et des attitudes qui me sont parfois soit la mise en danger de l'individu, soit dédramatiser des situations qui sont urgentes, importantes et qui peuvent mettre en danger autrui. Et ensuite, je dirais que le deuxième... Donc je dirais que c'est en Twitter. Je dirais que Twitter... Twitter, il y a des fois une accumulation d'informations et des commentaires sur Twitter qui m'interrogent.
Quel est votre réseau social que vous trouvez le plus intéressant?
Alors, je dirais que c'est par rapport à l'usage, la facilité d'utilisation. Et donc, je dirais que celui qui me convient pour le moment, c'est celui qui me permet d'être en réseau avec ma famille. Donc, ça, je dirais que c'est Signal. Voilà.
Quel est votre point de vue sur les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux? Je veux parler des moins de 13 ans.
Alors, c'est une grande question. Je vais repartir sur une antériorité, c'est-à-dire l'usage du téléphone portable. Pendant longtemps, on était beaucoup de familles à ne donner et acheter un téléphone portable à nos enfants que lorsqu'ils étaient en capacité de l'utiliser au mieux, c'est-à-dire... Je crois que mes enfants ont eu leur portable en troisième, pas avant. Là où ça m'interroge, c'est quand les parents ne prennent pas leurs responsabilités et canalisent pas l'utilisation du téléphone portable. C'est-à-dire qu'un enfant, si on ne le guide pas, il ne peut pas savoir ce qui est le mieux pour lui. Et c'est tellement facile de mettre son enfant sur une tablette, sur le téléphone portable, quand on est fatigué, quand on rentre du boulot, quand on a envie d'être tranquille le week-end parfois. Et c'est tellement plus facile parce qu'on ne rentre plus en communication ou en conflit avec ses enfants voilà, c'est ça qui m'interroge. Je dirais qu'à la fois, les élèves sont responsables, mais à la fois, si on ne les éduque pas, c'est pas de leur faute non plus. Donc c'est là-dessus où je suis très en question.
Un grand merci, madame la principale, d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir et à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long.
On vient d'écouter La tendresse de Bourvil. Et maintenant, la rubrique Aras-tu, qui est sur Banksy, présentée par Céleste et Anna.
On ne connaît pas la véritable identité de Banksy. Banksy a débuté dans les années 80. Figure emblématique du street art, star internationale incontestée. Il a acheté un bateau en toute discrétion et l'a repeint en rose et l'a décoré avec la célèbre petite fille au ballon en gilet de sauvetage. Le Louise Michel a débuté ses opérations de sauvetage en août 2020.
Il l'a baptisé comme cela en référence à l'anarchiste française du 19e siècle. En août 2020, le bateau Siaou Watch 4 a aidé le Louise Michel en venant porter secours à 150 migrants. Le Louise Michel, qui a interrompu ses missions de sauvetage pendant un an et demi d'absence, le Louise Michel est de nouveau opérationnel, ont tweeté les humanitaires. Quelques heures après, le navire a secouru 31 personnes provenant d'un bateau en bois à la dérive à cause du mauvais temps au large de la Libye.
Merci à toutes les deux.
Vous écoutez Radioactif sur Radio Bartas.
Je vais poser quelques questions à Françoise Lejean, plus précisément à mon papa. Bonjour, je vais vous poser quelques questions. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être pongiste ?
Bonjour, alors suite à un accident de moto, j'ai découvert le handisport. J'ai essayé plusieurs sports et j'ai aimé le tennis de table parce que c'est un des rares sports où on peut aussi jouer en compétition dans le milieu valide. Et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir aussi pratiquer avec les valides.
Ok. Combien de temps vous vous entraînez par semaine ?
Alors, je suis sportif de haut niveau. Je m'entraîne régulièrement. Alors, des semaines où j'ai pas de stage, ça va être entre 6 et 10 heures par semaine. Et sinon, je fais souvent, plus souvent des stages en fait, où on va faire environ 6 heures par jour de tennis de table sur la semaine. Voilà. Donc ça va être plutôt une semaine par mois, des séances, des stages assez intenses.
Où vous entraînez-vous ?
Alors je m'entraîne individuellement à Mende ou à Moroda. Et ensuite, les stages sont organisés régulièrement à Moroda aussi, parce que j'en organise régulièrement, mais aussi là prochainement, par exemple, je vais en faire un à Dijon. Enfin, il y en a un peu partout en France.
Avec quels matériaux jouez-vous ?
Alors, j'ai une raquette de tennis de table. Mon fauteuil, personnellement, c'est le même fauteuil roulant que j'ai dans la vie quotidienne. Certains athlètes ont deux fauteuils, un pour le sport, un pour la vie de tous les jours. Moi, c'est le même. Et après, en termes de matériel, alors j'ai ce qu'on appelle un backside. C'est une plaque normale en coup droit. En gros, une plaque normale, une plaque lisse. Et en revers, c'est un picot long. C'est un matériel qui va inverser les effets. Et qui, voilà, qui est plutôt du matériel avec lequel jouent les défenseurs en tennis de table. Voilà.
Vous allez faire combien de tournois dans l'année ?
Alors cette année, c'est une année particulière parce que c'est une année qualificative pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Et donc je vais faire beaucoup de tournois, sans doute une dizaine de tournois cette année. Voilà.
Vous pouvez nous parler plus de votre palmarès ?
Mon palmarès, alors en France, j'ai eu un titre, enfin un titre, pas un titre vraiment, mais donc j'ai été vice-champion de France en 2021. J'ai été multiple médaillé de bronze au championnat de France. J'ai remporté 3 Open à l'international, en Belgique, en Égypte, en Finlande. J'ai été plusieurs fois finaliste. Et puis des médailles aussi en, par équipe ou en double. Voilà pour l'essentiel de mon palmarès.
Quel est votre prochain tournoi ?
Alors là, je reviens tout juste d'un tournoi en Italie. Et le prochain, ce sera fin avril en Grèce, suivi du Monténégro et de la Slovénie. Voilà, 3 tournois qui vont s'enchaîner et qui vont être assez importants pour la suite des événements.
Où habitez-vous ?
J'habite à Rousse, en Lozère, un petit village pas loin de Florac, la sous-préfecture de la Lozère.
Faites-vous des interventions ?
Alors oui, il m'est arrivé de faire des interventions dans des collèges, dans des entreprises. Voilà, des actions de sensibilisation au handicap, au handisport, pour parler un peu plus de mon parcours. Voilà, aussi dans des écoles d'études supérieures, des écoles d'infirmières. Voilà, c'est souvent intéressant d'échanger avec les étudiants ou les élèves des classes.
Merci beaucoup pour cette interview et bonne chance pour les qualifications.
Merci à toi pour toutes ces questions et j'espère que ça va intéresser des gens. Voilà.
Aras-tu, nous passons à la mythologie avec Jeanne. À toi, Jeanne.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la déesse Aphrodite, la première déesse de la mythologie grecque, celle de l'amour, de la beauté et de la passion. Les Romains avaient aussi cette déesse, mais sous le nom de Vénus. C'est la fille du premier dieu du ciel, Uranos, et de la première déesse de la terre, Gaïa. Un jour, Gaïa était en colère contre Uranos, car il avait jeté dans le chaos leurs trois géants aux 100 yeux et aux 50 bras. Dans la nuit, elle demanda à ses enfants, les titans, de se relever contre leur père. Elle demanda à ses 8 filles et à ses 8 garçons, et le seul qui entendit fut Cronos. Et c'est ainsi qu'au petit matin, armé d'une faux, pendant que son père dormait, il alla le tuer. Quatre gouttes de sang tombèrent sur la mer. Trois gouttes formèrent les trois Érinies, des monstres qui punissent les crimes des dieux en les empêchant de dormir. Quant à la dernière goutte de sang, elle se transforma en la magnifique déesse Aphrodite. Celle-ci vogua plusieurs jours sur l'océan, puis elle arriva sur une île où elle se saisit d'un grand tissu dans lequel elle s'enroula. Un tas de petits oiseaux lui offrirent une ceinture dorée qui peut rendre les personnes amoureuses. Aphrodite ne s'en séparera jamais, car c'est de sa ceinture que vient son pouvoir de l'amour. Voici donc l'incroyable naissance de la déesse Aphrodite. C'est de son frère le titan Cronos et de sa sœur la titane Rhea que vont naître par la suite les plus grands dieux de l'Olympe. Hestia, Déméter, Héra, Poséidon, Hadès et pour finir Zeus. Aphrodite sera leur tante. Au début, les Grecs pensaient qu'Aphrodite était la fille de Zeus. Mais alors pourquoi Aphrodite pouvait contrôler ses amours? Aphrodite, grâce à sa ceinture magique, faisait que Zeus tombe amoureux de plusieurs femmes à la grande colère d'Héra, sa femme. On ne sait pourquoi Aphrodite le faisait. Peut-être pour que Héra soit en colère après Zeus? C'est alors que les Grecs se sont mis à croire qu'elle était la fille d'Ouranos et de Gaïa, car ils considèrent que ce contrôle rend Aphrodite plus puissante que le roi des dieux. Par exemple, une fois, Aphrodite avait fait que Zeus tombe amoureux de la nymphe Callisto, qui était une amie d'Artémis. Or, les filles ne peuvent pas être avec des garçons. Zeus prit donc l'apparence d'Artémis. Lorsque Callisto donna vie à un fils du nom d'Arcas, Héra décida de s'en mêler, et après la naissance du petit, elle transforma Callisto en ours. Elle ne s'arrêta pas là. Une autre fois, comme la nymphe Polyphontée, une autre amie d'Artémis, disait à Jason, qui était amoureux d'elle, que jamais Aphrodite ne pourrait l'avoir avec l'amour, Aphrodite décida de faire en sorte qu'elle soit amoureuse d'un ours. Aphrodite mit donc un ours sur sa route, et Polyphontée en tomba amoureuse. Très en colère, Artémis la transforma en ours à jamais. Plus tard, Zeus offre à Héphaïstos, le dieu des forgerons, du feu et de la forge, le plus laid de tous les dieux, mais aussi son fils, la main d'Aphrodite. La déesse n'a pas le choix, elle est obligée d'accepter, car c'est la volonté de son roi. Quelques années plus tard, elle tombe amoureuse d'un autre dieu, Arès, le dieu de la guerre et du sang. C'est aussi le petit frère d'Héphaïstos. Bien sûr, Héphaïstos est en colère contre son frère Arès, et il décida de leur tendre un piège. Il fit un long fil transparent, puis fit semblant de partir. Mais pendant la nuit, il alla trouver Arès et Aphrodite enlacés l'un contre l'autre. Alors, il prit son long fil et le fit tomber sur les amoureux, ce qui les empêcha de bouger. Le lendemain matin, le dieu Héphaïstos alla chercher les autres dieux et tous éclatèrent d'un rire moqueur en voyant Arès et Aphrodite comme ça si ridicule. Aphrodite tombe une fois encore amoureuse d'un autre homme. Celui-là était immortel, mais sous la volonté de Zeus pour qu'il voie comme ce n'était pas drôle de jouer avec le cœur des autres. Son nouvel amoureux était un berger. Il s'appelait Anchise. Elle eut un fils avec lui qui portait le nom d'Aîné. Il sera un grand roi, mais il y a eu un problème irréparable. Après la naissance de son fils, Anchise est allé partager la bonne nouvelle avec tous ses amis. Mais avant cela, il avait promis à Aphrodite qu'il ne dirait à personne qu'elle était la mère de l'enfant. Après avoir bu chez un ami, à lui, lors d'un repas avec d'autres convives, tous furent questionnés pour savoir s'ils préféraient coucher avec la fille de leur hôte ou avec Aphrodite. Anchise répondit « En tout cas, de vous tous, je suis le seul à avoir couché avec elle et nous avons même fait un fils. » Il s'arrêta trop tard. Il avait dit qui était la réelle mère de l'enfant. Le lendemain, à l'aube, il partit chez lui sur le mont Ida. Quand il arriva en vue de sa maison, un éclair zébra le ciel. Anchise courut vers chez lui, Aphrodite courut vers Anchise, mais n'eut pas le temps de le tirer vers elle. Alors, elle tendait sa ceinture au-dessus de la tête d'Anchise. Grâce à elle, il ne mourut pas, mais fut bossu et très laid. Une fois qu'Aîné n'eut plus besoin de boire le lait de sa mère, Aphrodite partit. Elle quitta Anchise, mais aussi Aîné, car la honte d'avoir fait un enfant avec un mortel la suivait partout. C'était fini. Elle fut malheureuse car Anchise lui manquait, mais elle ne voulait plus aller le voir, repoussée par sa laideur. Une autre fois, elle vint en aide à un homme du monde d'Hippomène. Il était tombé d'une autre fille nommée Atalante. Bien sûr, vous savez comment. Le problème était que pour pouvoir l'épouser, il fallait la battre à la course. Et elle était très rapide, plus rapide qu'une biche. Aphrodite donna 3 fruits étranges à Hippomène. Il lui suffisait de les lancer pendant la course pour qu'Atalante s'arrête et les observe. Il gagna ainsi la course, mais oublia de remercier Aphrodite. Quelques années plus tard, Aphrodite se vengera en transformant le jeune couple en lion. Aphrodite est aussi à l'origine de la guerre de Troie. L'histoire de la pomme d'or est la racine de cette interminable guerre. Le jour où Aphrodite reçut la pomme d'or, c'était le jour du mariage de la nymphe Thétis et de Pélée, futur parent d'Achille. C'était un beau mariage où il y avait tous les dieux de l'Olympe, sauf une, Eris, la sœur d'Arès, déesse de la discorde. Pour se venger, elle jeta sur la table une pomme d'or sur laquelle était écrit « Pour la plus belle ». Aphrodite, Héra et Athéna étaient sûres que la pomme serait pour elles. Une violente dispute éclata. Comme Zeus n'arrivait pas à départager, hésitant entre sa femme Héra et sa tante Aphrodite qui était la déesse de la beauté, il envoya Hermès sur le mont Ida trouver Paris, le prince de Troie, chargé de trancher. Héra lui proposa des royaumes, Aphrodite lui offrit des victoires militaires, mais les deux se disputèrent et leurs visages se déformèrent sous la colère. Aphrodite dit alors à Paris qu'elle montrait là leur vrai visage. Il lui donna donc la pomme d'or. Pour le remercier, Aphrodite lui offrit l'amour de la plus belle femme de Grèce, Hélène, fille de Zeus et de Léda, bien que Hélène soit déjà mariée avec Ménélas, le frère du roi de Sparte, Agamemnon. Voilà l'origine de la terrible et la sanglante guerre de Troie. Héra et Athéna voulaient à tout prix que Paris paye pour cet affront. Hélène s'était enfuie avec Paris, comme l'avait promis Aphrodite, et Sparte déclara la guerre à Troie. Héra et Athéna étaient du côté des Grecs, tandis qu'Aphrodite avait choisi le camp de Troie pour plusieurs raisons. Premièrement, car c'est à elle que Paris avait donné la pomme d'or. Deuxièmement, parce que son fils aîné se battait avec les Troyens. Troisièmement, parce que Troie est une belle cité, peut-être la plus belle de toute la Grèce. Mais tout ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai si vous êtes sages.
Vous écoutez Radioactive sur Radio Bartas.
Et maintenant, c'est l'instant avec Pascal et Gertrude.
Bonjour Pascal, comment ça va aujourd'hui ?
Eh bien écoute, moi ça va nickel. Alors, qu'est-ce que tu as me raconter de beau aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai croisé ma voisine au supermarché tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle avait un mari en or.
Et elle a bien de la chance, ta voisine, d'avoir un mari en or, parce que la mienne de voisine, son mari, il est en tôle.
Bon, changeons de sujet. L'autre jour, ma grand-mère a chassé un voleur qui essayait de voler son sac.
Elle est bien forte, ta grand-mère. Comment elle s'appelle déjà ?
C'est ma mitraillette. Tu la connais sûrement, parce que l'autre jour, je t'en ai aussi raconté une bonne sur elle.
Ah oui, tu m'avais raconté qu'elle avait eu du retard en rentrant de son voyage dans le nord parce qu'elle n'arrêtait pas de caler.
Merci Pascal et Gertrude pour cet instant de rire. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, chers auditeurs. Et à bientôt.
Au revoir.
Bienvenue sur Radioactive, réalisé par les élèves du Club Radio. De la musique, des interviews, des micros pour voir tout sur les nouvelles tendances. Chut, arrête, n'en dis pas trop. Radioactive, mercredi 11h, une semaine sur deux. En alternance avec le dimanche 17h, une semaine sur deux. Radioactive.